Et puis alors maintenant nous sommes à Jérusalem. Alors là, on va... on a profité ensuite de l'autobus avant de le lâcher pour aller contempler le paysage de Jérusalem à partir d'un point qu'on appelle Argilo, au-dessus du village arabe de Béjala. Et puis on a été voir la célèbre maquette de l'hôtel Holy Land et on a débrouillé le problème des lieux saints. Alors peut-être qu'avant de nous lancer maintenant dans la première chose qu'on va faire à Jérusalem, c'est une visite au Saint-Sépulcre, mais peut-être qu'on pourrait faire une mise au point sur les lieux saints en général. Je crois que ça... Parce qu'on va faire un lieu saint extrêmement sérieusement, et si on le fait bien, vous pourrez faire personnellement les autres lieux saints, c'est pratiquement toujours les mêmes dates, c'est pratiquement toujours les... Et il faut des principes de discernement aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre, quand on n'a que quelques jours à passer à Jérusalem, il faut discerner ce qui est important, ce qui est vénérable, et puis il y a toute une montagne de sottises et de bêtises qu'on sera obligé de répéter, et c'est vraiment dommage. Si on met tout sur le même plan, qu'est-ce qui se passe? On flanque tout en l'air. Alors il faut voir ce qui est sérieux, ce qui est vénérable, ce qui est folklorique, et puis ce qui ne mérite pas même d'être mentionné. Alors je propose que, après une petite pause, là on fasse une mise en place de cette histoire des lieux saints au pluriel. À la BST, j'essaie de faire quelque chose de complémentaire par rapport aux pèlerinages qui sont devenus classiques. On ne voit que les lieux saints qu'on enfile dans un ordre souvent incohérent. Et j'essaie d'introduire une progression et puis de montrer que la Terre Sainte est encore plus intéressante que les lieux saints. Tout parle en Terre Sainte. Et puis que Jérusalem était plus intéressante encore comme lieu saint au singulier que par les lieux saints qu'on y vient visiter. Mais ceci dit, alors les gens qui ne sont jamais venus à Jérusalem, je leur conseille fortement de venir un peu plus tôt, de prolonger leur séjour pour faire qu'ils soient frustrés de ne pas avoir fait. Mais alors, encore faut-il quand même, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, avoir des principes de discernement au milieu de tout cet amoncellement de lieux saints. Et c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant dans le pays. Une petite méthode que je leur donne habituellement. On se pose quatre questions. Je les énumère et puis ensuite je reviendrai là-dessus. Premièrement, y a-t-il une donnée topographique précise dans les textes, disant que c'est là exactement que ça s'est passé? Deuxièmement, y a-t-il des traditions byzantines affirmées qu'on peut suivre depuis le début de l'époque byzantine, la conversion de l'Empire au christianisme? Je reviens là-dessus. Troisièmement, y a-t-il des signes qui permettent de penser que telle ou telle localisation qui s'est faite à l'époque byzantine existait avant l'époque byzantine? On bouge l'espace entre l'origine et puis l'époque byzantine. Et puis, quatrième question, alors, qu'est-ce que ces localisations valent en face d'une science rigoureuse, critique, comme on la pratique à l'école biblique archéologique française, par exemple, au point de vue de l'histoire, au point de vue de la critique littéraire, et au point de vue de l'archéologie? D'abord, peut-être au point de vue de la critique littéraire, faut-il chercher des lieux que la Bible ne nous invite pas du tout à chercher? Faut-il chercher l'endroit où l'étoile qui a guidé les rois mages est tombée? Au Moyen-Âge, vous savez, on montrait tout. La pierre qu'il n'a pas cueillie quand Jésus est passé. Bon. Alors, je reviens sur ces questions. Premièrement, y a-t-il des topographiques précises dans les textes? On a vu qu'il y a la tombe de Rachel, je ne reviens pas là-dessus. Bon, il y a deux traditions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les premiers chrétiens avaient l'esprit beaucoup plus polarisé vers l'avenir dans une attitude d'attente que tourné avec nostalgie vers le passé. Et puis, les sacrements leur apportaient partout où ils étaient la réalité de la présence. Maintenant, ça n'aurait pas été des hommes, ça n'aurait pas été des femmes, s'il n'y avait pas eu des souvenirs. Et certainement qu'il y a des lieux saints qui s'enracinent dans des souvenirs. Il y a beaucoup de données topographiques dans la Bible au point de vue général. Ça s'est passé dans la région de Césarée de Philippe, ça s'est passé au bord du lac sur l'autre rive, ça s'est passé pas à tel endroit, mais sur les localisations précises, il y a très peu de localisations précises. Au même temps, quand il y en a, quelquefois il y en a deux qui nous invitent à faire un choix. Encore une fois, la signification fait qu'on parle qu'une certaine désinvolture au point de vue des conditionnements topographiques et chronologiques trop précis, sans pour autant perdre ce qui caractérise notre religion, l'enracinement dans le réalisme de l'histoire et de la géographie. Alors deuxièmement, y a-t-il des traditions byzantines qu'on peut suivre dès l'origine? La situation change complètement lorsque l'Empire se convertit au christianisme, les pèlerins viennent en masse, les pèlerins veulent tout voir, et on leur montre tout. Il y a une une corporation, Jean fait partie, si bien passé pour en parler, qui n'a qu'un but, c'est de faire plaisir aux pèlerins et aux touristes. Ils veulent tout voir, alors on leur montre tout. Alors se crée une masse, pas de tradition, on leur montre tout. Alors comment est-ce qu'on va s'y reconnaître là-dedans? Alors qu'il y a des travaux scientifiques, entre guillemets, comme par exemple le nomasticon de Joseph de Césarée que Saint Jérôme va traduire. Bah, tout ça, ça montre déjà une recherche sérieuse. Alors troisième question, y a-t-il des signes qui permettent de penser que telle ou telle localisation traditionnelle qu'on peut suivre à l'époque byzantine existait avant l'époque byzantine? Alors là, le problème se pose très différemment en Galilée et en Judée. En Judée, vous avez des basiliques à Jérusalem qui se construisent aussitôt la conversion de l'Empire au christianisme, le Saint-Sépulcre, la basilique de Bethléem, celle du Mont des Oliviers, ou bien le chêne de Mambré, là-bas sur la route d'Hébron. Alors, il faut faire de l'archéologie, hein. Et on en fera tout à l'heure au Saint-Sépulcre pour voir que c'est extrêmement sérieux. Mais pour se rendre compte de ça, il faut vraiment travailler dur, hein, pour se rendre compte que cette tradition est solide. En Galilée, c'est tout à fait différent. C'est très curieux ce paradoxe. Là-bas, vous avez des lieux saints qui sont des basiliques qui sont tardives. Vous êtes à Capharnaüm, là, c'est assez tardif. Mais alors, quand on fait des fouilles sous les mosaïques de sol, par exemple, comme font les pères franciscains, à Nazareth, à Capharnaüm, eh bien, on remonte à des traces de culte chrétienne jusqu'au 1er siècle, par des graffitis, par des inscriptions, par tel ou tel signe. À quoi est dû ce paradoxe? Eh bien, c'est que dans les premiers temps après la conversion de l'Empire au christianisme, les chrétiens ne s'aventuraient pas tellement en Galilée. Parce que là, la population lui était hostile. Pas seulement les juifs qui interdisent ces jours à Jérusalem leur montraient de l'hostilité, mais aussi les chrétiens venus du judaïsme avaient, pour les chrétiens venus de la gentilité, souvent un ostracisme semblable. Hein. Et les chrétiens ne s'aventurent, par exemple, les premières chroniques comme celle du pèlerin de Bordeaux, ils n'ont même pas en Galilée. Et Saint Jérôme, quand il parle du voyage de Saint Paul en Galilée, il dit « Pertonsiens que curit hein, ». Elle est passée en courant d'air. Alors c'est jamais la période éthérie qui est plus tardive, qui nous parle de Capharnaüm, qui nous parle de... C'est plus tardif. Et alors on a l'exemple assez curieux d'un juif qui se convertit au christianisme, qui s'appelait Joseph de Tibériade. Pas du tout un judéo-chrétien, mais un juif qui était vraiment converti au christianisme, qui avait gravi les échelons de l'administration constantinienne, et qui dans son zèle de convertir avait demandé à Constantin la permission de faire en Galilée des lieux saints comme on avait fait en Judée. Et alors, non seulement il a reçu la permission, mais il a reçu l'ordre de faire, et il n'a pas réussi. Et alors, des textes patristiques, aussi bien que quand on connaît un petit peu le Midrash, là, on voit qu'il y avait en effet un foyer là, qui faisait que les chrétiens ne s'aventuraient pas volontiers. Sentait le paradoxe, à Jérusalem, en Judée, des lieux saints tout de suite après la création de l'Empire, mais il faut vraiment faire des travaux là, pour se rendre compte que c'est solide et que ça existait avant l'époque byzantine. Là, au contraire, les lieux saints tardifs, donc, les Byzantins vraiment ont été effectivement maîtres là, ils ont supprimé cette tendance judéo-chrétienne qui ne marchait pas dans la ligne des grands conciles qui se définissaient à l'époque, hein, le concile de Nicée, Chalcédoine, Constantinople, Éphèse, et alors ils ont supprimé ça de la façon la plus élégante, la plus honorable, en les couvrant de lieux saints. Et quand on fait des fouilles en dessous, alors on remonte jusqu'à des traces de culte, comme par exemple Caïré, Grec et caritomene, c'est le langage de l'annonciation que nous faisons aujourd'hui. Et on trouve ça à Nazareth Caïré. Bon. Alors, quatrième question, qu'est-ce que ces localisations donnent en fonction d'une science sérieuse, hein, comme on la pratique à l'école biblique? Et si vous donnez un exemple simplement, prenons la question de cette question du prétoire de Pilate. Alors ça a beaucoup bougé. Pendant longtemps, ça a été indiscutablement discuté, l'histoire de l'ex-homo. Et moi, j'ai assisté à l'école biblique, c'était dans les années 50 par là, à des polémiques entre le vieux Père Vincent, hein, un archéologue encore respecté actuellement, qui a fait un travail extraordinaire, Jérusalem sous terre, etc. Et lui, alors, cautionnait de toute son autorité les recherches faites par les sœurs de Sion avec Chéobo, qui était sûr d'avoir retrouvé le lithostroton, le prétoire de Pilate, là. Et c'était le début du chemin de croix, les 12 stations. Et alors, le père Benoît, qui était élève du père Vincent, Lui, il disait c'est absolument impossible, et pour des, comme le père Vincent, pour des raisons d'archéologie, d'histoire, de critique littéraire, disait prouver que c'était non pas à l'Antonia, mais à la citadelle, enfin au palais d'Hérode. Bon, vous voyez, il ne s'agit pas d'une discussion entre protestants et catholiques, entre orthodoxes et catholiques, entre franciscains et dominicains, il s'agit d'une querelle entre un grand maître et son disciple. Il n'y a pas de question de foi. Rien n'empêche les méthodes scientifiques de jouer. Et si vous ouvrez la revue publique, je ne sais plus exactement quel numéro de quelle année, vous trouvez 20 pages du père Vincent qui prouve que ça ne peut être que l'Antonia, et 20 pages ensuite à côté du père Benoît qui prouve que ça ne peut être que la citadelle. Non, ça change quand on dit chemin de croix. Alors, vous voyez, le chemin de croix, c'est une dévotion qui est née ailleurs, qui porte très nettement les marques de ce qu'on appelle la dévotion moderne, qui est née à Spirvaux, à Mayence, à Louvain, les 14 stations, et ensuite qui ont été transposées à Jérusalem. Et comme on pensait que le prétoire était là, on les a inscrites dans la Jérusalem jusqu'au Saint-Sépulcre. Mais alors là, ça s'arrête souvent derrière la pierre qu'on roule sur le cadavre de Jésus le vendredi saint, et c'est dommage parce que toute l'espérance chrétienne, c'est la résurrection. Si nous sommes plus heureux des hommes, si nous ne croyons pas. Et vous savez, moi je ne sais pas, on cherche les responsables, puis on les trouve, et puis indirectement, on peut se demander si ce genre de dévotion n'a pas eu des effets assez sinistres. Enfin, les croisés massacrés, les juifs, ils avaient trouvé les responsables. Et des grands spectacles, Oberammergau, je ne suis pas sûr que ça soit dans la meilleure tradition chrétienne. Je ne suis pas sûr. Enfin, je ne veux pas me lancer là-dedans. Mais la liturgie de l'Église me semble refléter de façon beaucoup plus authentique ce qu'est la vraie tradition chrétienne, plutôt que certaines dévotions qui sont nées tardivement, qui ont été importées ici. Mais il y a plusieurs étages. Alors maintenant, le Saint-Sépulcre, c'est vraiment sérieux. Alors je voudrais qu'après cette théorie, ce principe de base, là, vous pourrez comme ça faire un discernement. Et puis, quand on n'a pas beaucoup de temps à Jérusalem, il y a trois choses qui sont importantes. Il y a le voile déchiré, la mosquée d'Omar. Alors pour moi, c'est vraiment le lieu saint. Le roi Josias avait supprimé tous les lieux saints au pluriel, pas seulement les cultes idolâtriques, mais les lieux saints orthodoxes. On voit à Arad, par exemple, un mur de l'époque de Josias qui traverse le Saint des Saints d'un temple orthodoxe. Pour qu'il n'y ait plus qu'un seul lieu saint, et si vous lisez le Deutéronome, vous avez un refrain qui revient pour la loi de l'unité du sanctuaire au chapitre 12, là, Hammakom au singulier, Hammakom Shebarar Boelohim Kedele Shaken et Shemosham, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et Caïphe, un professionnel au temps de Jésus, il dit si cet homme continue, les Romains vont venir détruire le lieu, Tom Topon au singulier. Donc il y aurait une certaine façon de parler des lieux saints au pluriel qui pourrait être agressif par rapport à des étapes déjà dépassées au temps de Josias. Donc ceci dit, encore une fois, dans la Bible, toujours, nous avons affaire à une progression. Les hommes sont pris tels qu'ils sont là où ils en sont pour aboutir. Alors attention, ne m'accusez pas surtout de mettre en question la valeur des pèlerinages et des sanctuaires. Alors là, pas du tout. Je suis le premier d'ailleurs à me mêler à ces foules. Mais il faut que la foi purifiant la religion amène au culte en esprit en vérité. Alors, le deuxième lieu, c'est le mur. Et on ne méditera jamais assez, ça fait partie de la théologie de l'Église, comme j'ai dit à plusieurs reprises, le mystère de ce peuple qui arrive devant un mur qui n'est pas qu'un mur de pierre, après avoir gardé son identité mystérieusement, cette identité dont j'ai trop profité pour ne pas la respecter profondément.